vos Bibles. On continue avec l'épître de Paul aux Romains. Nous sommes dans cette série depuis le début de l'année et on continue toujours. Donc Romains chapitre 8 ce matin et le verset 28. Romains 8 et verset 28. Peut-être que je vais commencer à lire bien avant pour bien sûr que le verset il est dans un contexte. Il y a 15 jours, on a commencé au verset 18, et je vais lire à partir de 18 jusqu'à la fin du chapitre, parce que c'est là le contexte de ce verset 28. Donc, Romains chapitre 8, verset 18, je lis. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu ?» Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est pas plus de l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs. C'est la troisième fois qu'on voit soupir. Des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons. Du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort chaque jour, et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si vous avez compris une chose, c'est qu'il y a quelque chose de sûr dans tout cela. C'est qu'il y a une sécurité. Alors, tout cela, il dit, toutes ces choses, et vous l'avez vu plusieurs fois, il dit toutes ces choses. Il dit toutes ces choses, et bien verset 28, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, la souveraineté de Dieu, c'est un mot que les chrétiens, on entend de plus en plus, on parle de souveraineté de Dieu, Dieu est souverain, mais la souveraineté de Dieu est un de ces attributs qui est très souvent malmené. Parce qu'il est utilisé pour justifier tout ce qu'on ne comprend pas des agissements de Dieu. Alors, on ne sait pas pourquoi ça se passe comme ça, ben, Dieu est souverain. Hein, c'est, pour moi, ça sonne trop comme une religion dans laquelle j'ai grandi, où Allah décide de tout, hein, tout est écrit. la souveraineté de Dieu n'a rien à voir avec la fatalité. Hein, la fatalité, il n'y en a pas dans la Bible. Surtout pour l'enfant de Dieu. La souveraineté de Dieu est un aspect de Dieu qui nous a été révélé. Et si Dieu a jugé bon de nous le révéler, c'est que c'est, on en avait besoin de savoir qu'il est souverain. Et il a été révélé pour nous rassurer et non pour entretenir l'incompréhension. Hein, ce verset 28 nous a été donné après avoir... Il est quand même au chapitre 8. Hein. Ça veut dire que tout ce qui précède prépare pour ce verset. Et tous les éléments qui ont été communiqués, donc il a parlé du péché de l'homme, ensuite du fait que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, nous sommes justifiés, c'est lorsque nous demandons pardon, et nous reconnaissons que Christ est mort sur la croix pour nos péchés, le don de Dieu, eh bien c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, et puis après ces derniers chapitres-là, il nous parlait du fait que nous sommes... de cette rédemption qui est en Jésus-Christ, de cette adoption que nous avons en Jésus-Christ. Et là, finalement, nous l'avons lu, il nous parle de l'Esprit de Dieu qui est là, qui intercède en notre faveur, alors que nous n'avons que des soupirs et ne sachant pas trop comment parler. Hein, comme j'ai lu récemment un petit dessin qui disait, l'homme priait, il dit, Seigneur, je ne sais pas comment dire, donc j'espère que tu entends mon cœur. Eh bien, l'Esprit est là pour nous aider. Et alors, lorsque on voit tout cela, eh bien, il nous dit, eh bien, tout cela concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, c'est pour nous dire, écoutez, avec tout cela, eh bien, vous comprenez, tout concourt, tout va ensemble. Et il nous dit, c'est ça, l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu, c'est pas seulement le fait qu'on soit sauvé, c'est le fait de toute cette œuvre que Dieu a mis en place, qu'il a rendu possible par la mort de Christ, oui, mais qu'il a mis en place, et ça, c'est ce qui est bien pour nous. Et donc, lorsque nous voyons tout cela, on dit, ben oui, c'est sûr, hein, il nous donne l'assurance de notre salut. Et vous avez vu la fin de ce chapitre, nous dit, il a souligné, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et il a énuméré tout ce qu'il pouvait énumérer, tous les pouvoirs, toutes les puissances, tout ce qui a du pouvoir sur nous, il les a énumérés, il dit, ils ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Donc ce passage que j'ai lu là, c'est pour nous dire, vous soupirez, mais sachez que tout est bien ficelé, tout est bien fait, et vous n'avez rien à craindre. Parce que la souveraineté de Dieu ne veut pas dire que Dieu peut faire ce qu'il veut, quand il veut, et que personne ne peut s'y opposer. Ça, ce n'est pas la souveraineté de Dieu. Ça, c'est la souveraineté chez les hommes. Un souverain, un roi souverain, ça veut dire que personne ne pouvait le remettre en question. On ne prend pas les idées de la terre pour les appliquer à Dieu. On regarde dans la Bible pour comprendre ce qui est de Dieu. Hein? On ne regarde pas, on n'essaye pas de s'inspirer de ce qui existe. Quand on dit que Dieu est souverain, ça n'a rien à faire avec les souverains de terre. Hein? Ça n'est surtout pas pour dire qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut, et puis tais-toi. Parce que sinon, eh bien, nous pourrions l'accuser. Et certains l'accusent. Ils disent, mais Dieu, pourquoi tu n'es pas intervenu là? Pourquoi tu n'as pas fait là? Pourquoi tu as laissé ça aller? Puisque tu peux tout. Hein? Et c'est pas ça, l'idée. Hein? La souveraineté de Dieu, eh bien, c'est justement ce verset et la définition de la souveraineté de Dieu. Et ce verset s'applique tous les siens, hein, tous ceux qui appartiennent à Dieu, quelle que soit la dispensation, quelle que soit à laquelle ils se trouvent. Hein, c'était vrai pour Abraham,
Hein, il suffit de lire l'histoire d'Abraham, c'était vrai pour Joseph, lisez l'histoire de Joseph, c'était vrai pour le peuple d'Israël, c'est vrai pour l'Église primitive, c'est vrai pour nous aujourd'hui. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est un verset, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il est par moi utilisé à tort et à travers, quelqu'un passe un moment difficile, oh, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, console-toi avec ça. Non, mais parfois il vaut mieux pas le dire, hein, parce que c'est pas le contexte du verset, et c'est mal appliqué le verset, et ça provoque de la révolte parfois, ou de l'amertume. C'est pour nous rassurer. Ce verset-là, nous savons du reste que toute chose. Vous avez marqué, hein, j'invente rien, mais le verset commence par « nous savons ». Nous savons. Ah. Vous savez, savoir quelque chose et être sûr que c'est vrai, c'est une bonne chose. Hein, nous trouvons de la paix, nous trouvons du confort, nous trouvons de l'assurance, de l'espérance lorsque nous savons quelque chose. C'est, nous savons, il y a d'autres choses dans la Bible, hein, c'est comme dans 1 Jean 5, 13, il nous dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » C'est une chose qu'on sait. Il dit « Je vous ai écrit ces choses pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Il dit aussi dans 2 Corinthiens 5, 1, nous dit « Nous savons en effet que si cette tente, donc ce corps, où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » Donc ça dure. Il dit, nous savons. C'est une chose que nous savons. Donc tout ça, ça rassure. Lorsque je sais, quand Dieu me permet de savoir certaines vérités, eh bien alors je peux me reposer. Hein. Quel repos céleste. Bien sûr, je crois que c'est évident, mais quand il dit « nous savons », hein, c'est dans le sens qu'il y a certaines personnes qui sont incluses là-dedans. Hein, ces versets ne concernent que ceux qui ont reconnu qu'ils étaient pécheurs, qui ont cru que Jésus est mort sur la croix pour leurs péchés, et qui sont justifiés, comme on dit, et ont été adoptés. Donc, « nous savons » se réfère à une information qu'on peut garder dans la mémoire. Il dit c'est quelque chose qui est là, et qui, le moment où tu te poses des questions, le moment où tu as des doutes ou quelque chose, eh bien, tu fais appel à ces choses que tu sais être vraies. Hein, on vient, on vous raconte quelque chose sur un cher ami, et dites, et puis après vous dites, non, je connais cette personne, je ne ferai jamais. Parce que vous savez quelque chose. Vous dites, non, je ne le ferai jamais. Et ça vous rassure. Et ce que je sais, et surtout quand j'ai affaire à Dieu, parce que lui, c'est vrai qu'il est, il est digne de notre confiance. Et cette information, et si jamais un jour vous craignez de ne pas vous en souvenir quand vous en aurez besoin, hein, parce que des fois, quand on passe dans les moments difficiles, eh bien, des fois, c'est difficile de nous souvenir de ce que Dieu a dit. Hein, on est tellement préoccupé par le problème, par le souci, par cette parole que quelqu'un a dit, tellement par là qu'on n'arrive plus à entendre Dieu. Et dans ces cas-là, il vaut mieux se préparer pour cela et avoir ce verset là où je vais le voir. Hein, je suis sûr de passer, je vais le voir et être rappelé. Hein, parce que c'est une chose que je sais. Bien, et puis d'avoir une telle relation avec des frères et sœurs qu'ils peuvent me rappeler un verset. Dis-tu, tu sais ce que la Bible dit, hein? Et puis elle dit, ah merci. Hein, des fois, combien de fois vous êtes là, puis sur Facebook ou sur autre chose, vous voyez, quelqu'un vous rappelle un verset et dit, ah merci, ça m'a fait du bien d'y penser. Bien, ça fait partie de ces choses-là. Et nous avons besoin. Et l'apôtre Paul dit ça à les Romains, qui passent encore, mais qui vont passer par une période de persécution, grande persécution, sous Néron, hein, l'empereur Néron, à Rome. Ils vont être terriblement persécutés, et ils ont besoin de savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, tout cela, ne faites pas, ça a l'air de tout s'écrouler, et que rien ne tient, mais sachez que ça tient. Et il dit, vous saurez que toutes choses concourent au bien. Pas que toutes choses sont bonnes, mais toutes choses concourent au bien. Et lorsqu'il dit toutes choses, en fait, il fait référence à rien de particulier, il ne nomme pas une chose, et en même temps, c'est un mot qui englobe tout sans exception. Il dit toutes choses dans ta vie, si tu es enfant de Dieu, toutes choses, même ce que tu as fait, ce que tu as mal fait, et ce que tu as bien fait, ce que tu as subi, ce que tu fais subir, Dieu sait faire concourir tout cela pour ton bien. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. C'est de pouvoir prendre ce qui est et faire concourir pour le bien. Ça, c'est extraordinaire. Et donc, toute chose englobe sans exception tout ce qui peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu ou dans l'Église de Jésus-Christ. Au niveau local, comme au niveau national, comme au niveau mondial. Tout marche ensemble. Et c'est pas seulement nous devons le croire, mais c'est en plus vrai. Je reviens sur ce mot, la souveraineté de Dieu, parce que c'est justement ça, et nous voulons comprendre parce que la souveraineté de Dieu est cette capacité qui lui est distincte de pouvoir coordonner tous les éléments de la vie d'une personne, de l'édification d'une église, de l'histoire d'une nation, de l'avenir du monde. C'est sa capacité de pouvoir coordonner tout cela pour que le résultat soit positif. Et surtout de réaliser ce qu'il lui a projeté. Parce que lui, il a un plan. Dieu avait un plan déjà avant de créer le monde. Et il sait où il va arriver. Et ce n'est pas les hommes et leur comportement et tout ça qui arrivent à changer quelque chose. Vous savez, dans le monde, on a des conférences, et puis on a des colloques, et on a des ceci et cela. Mais vous savez, ça ne change pas grand-chose à ce qui arrive. Et ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement est-ce que Dieu peut coordonner tout cela, mais il le fait en respectant la volonté de chacun. Dans le monde, on est obligé d'imposer des choses sur la volonté de quelqu'un pour maintenir de l'ordre. Ce soit sur la route, ce soit à l'école, que ce soit dans l'armée, que ce soit à la maison, il y a quelqu'un qui impose sa volonté pour que les choses, qu'il y ait de l'ordre, pour qu'on arrive à quelque chose. L'usine aussi. Mais Dieu dit non, moi je respecte la volonté de tous et j'arrive à faire ce que j'ai prévu de faire. Puis, bon, ça, chapeau. Mais c'est ça la souveraineté de Dieu. Quand je dis ça, je dis, il n'y a personne d'autre qui arrive. C'est ce qui distingue Dieu. Il dit, ça c'est un attribut à moi. C'est pas le fait de pouvoir faire un grand tape à l'œil, un grand événement qui laisse les gens bouche bée. Dieu dit, ça m'apporte rien qu'il reste bouche bée. Mais de pouvoir coordonner tous les événements de la vie d'une personne, de la vie d'une communauté pour que le bien en sorte tout en respectant la volonté de chacun ou le manque de volonté, là, ça c'est moi, ça c'est mon travail. Vous savez, avec un Dieu pareil, si c'est vrai, et alors je suis en sécurité, je ne peux pas me tromper. Ou c'est vrai ou c'est pas vrai. On continue. La Bible contient de nombreux exemples, et même la Bible elle-même est une confirmation. Quand vous voyez, vous la lisez de la première page, vous voyez la création, et vous lisez la fin de l'Apocalypse, vous voyez tout ça, vous dites, ça aboutit comme il a toujours voulu. Vous avez l'arbre de vie dans Genèse, et vous avez l'arbre de vie à la fin de l'Apocalypse. On n'a rien... on fait beaucoup de détours et on arrive là où il a prévu. C'est la souveraineté de Dieu. Vous savez, le mot concourt, je m'arrête sur le mot, toutes choses concourent. Et ça a été traduit, le mot grec a été traduit par Louis II par concours. Mais le mot grec, c'est le mot duquel nous tirons le mot synergie. C'est un mot qu'on aime bien ces temps-ci, synergie. Mais le mot synergie, c'est la mise en commun de moyens qui se renforcent entre eux pour aboutir à un même but. C'est des éléments qui n'ont rien de commun, qui n'ont rien, mais de pouvoir tout faire pour aboutir à un même but. C'est le mot, toutes choses concourent, c'est le mot synergie. C'est que tous ces éléments, eh bien, qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, vous savez, et ça arrive, on peut avoir par exemple, le sel. Le sel, c'est une chose, à moins que le docteur vous ait interdit, mais sinon, c'est quelque chose qu'on aime mettre dans nos nourritures, on consomme énormément de sel. Mais c'est composé de deux éléments qui sont des poisons pour nous, le sodium et le chlore. Mais ensemble, eh bien, ça donne du goût à la soupe. Mais c'est un peu comme ça dans notre vie. Dieu peut prendre ces éléments-là, différents éléments, et puis le résultat accomplit le but qu'il s'est fixé. Là, le jeudi soir, on est en train de lire, d'étudier le livre de l'Exode, non pas pour voir les événements, mais pour voir Dieu qui agit dans le livre de l'Exode. Connaître Dieu. Et vous savez, ce qu'on voit jusque-là, on a vu, c'est que Dieu a dit à Abraham, il a dit, écoute, Abraham, cette terre, cette propriété, tout ce pays que tu vois là, je vais le donner à tes descendants, mais pas tout de suite. Ils vont descendre en Égypte, ils seront esclaves, mais ensuite je vais les libérer, je vais les ramener ici, je vais leur donner ce pays. Donc Dieu a annoncé déjà son programme. Ensuite, il y a 400 ans qui s'écoulent, les enfants d'Israël ne sont pas en état de pouvoir se libérer, ils sont esclaves. Tout va, c'est l'heure pour l'accomplissement de ce que Dieu a dit, et tout va contre. Mais Dieu va chercher Moïse, et puis il va commencer à agir, et puis il y aura les 10 plaies, tout ça. Les plaies, ce n'est pas pour montrer son pouvoir, c'est pour amener le peuple à reconnaître et à connaître le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et même à amener Pharaon, qui n'avait jamais entendu parler du Dieu des Hébreux, tout d'un coup, de dire, oui, il y a un Dieu là. Un vrai Dieu est puissant. Et l'information ira jusqu'à Canaan, parce que quand ils arrivent à Jéricho, eh ben, Rahab leur dira, ben nous, on a entendu parler de ce qui s'est passé en Égypte et on tremble. Et puis, le livre d'Exode, ben, il s'appelle, c'est parce qu'il y a un Exode, c'est-à-dire qu'ils vont sortir, et ils sortiront, et Dieu les amènera jusqu'à Canaan. Est-ce qu'il y avait des difficultés? Oui. Il y a des moments difficiles? Oui. Il y avait des volontés contraires? Oui. Il y avait de l'incrédulité? Oui. Il y avait tout pour que ça ne réussisse pas. Mais Dieu s'est servi de tous ces éléments, même Pharaon, et ne soyez pas dérangés par le fait que Dieu a endurci son cœur, parce que lui, son cœur était déjà endurci, et quand Dieu a endurci, il a endurci dans le sens où il était. Donc il n'a pas été contre sa volonté, il a aidé dans sa volonté. Et tout cela pour accomplir sa volonté. La croix, la mort de Christ sur la croix, c'est exactement pareil. On voulait détruire Jésus, on voulait le mettre à mort, tout était contre lui et tout. Et finalement, Dieu a coordonné les choses en accomplissant les désirs de chacun pour nous donner un sauveur. Et il a réussi à finaliser un plan qu'il avait mis en place. Un plan par lequel tout homme peut être sauvé. Dieu a su coordonner les choses et les évangiles nous décrivent comment Dieu a pu le faire. pour nous donner un sauveur. Ce qu'il avait promis déjà à Ève, il a dit « Un de tes descendants va écraser la tête du serpent. » C'est ça la souveraineté. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Souvent les chrétiens, nous sommes tellement un peu égocentriques, on cherche, on veut, mais ça ne s'arrange pas pour moi. Écoute, tu fais partie d'un grand programme. Et heureusement pour toi, parce que ce grand programme, il va réussir. Et pour que tout le programme réussisse, que tout le corps aboutisse, il faudra qu'il réussisse avec chaque élément. Et chacun de nous sommes un des éléments. Dieu, il a entamé un projet extraordinaire. Et il dit, je vous le dis d'avance, voilà comment je travaille, voilà ma manière de faire. Maintenant, lisez la Bible et voyez comment j'ai fait et continuez à absorber autour de vous et voyez comment ça se passe. Cette capacité particulière de Dieu qu'on trouve chez aucun autre, nous donne beaucoup de confiance dans le plan de salut de Dieu. Puis là, je dis, si vraiment il est capable de ça, alors là, moi, j'ai rien à craindre. Si tout ça, c'est vrai, ça veut dire qu'il sauvera ceux qui sont à lui dans tous les cas. Parce qu'il peut faire concourir toutes choses pour le bien de la vie de ses enfants. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Et déjà, ça suffirait largement. Je vous donne à méditer sur la bonté de Dieu. Si Dieu est bon, l'attribut lui-même nous dit qu'il ne peut faire que ce qui est bien pour nous. Il ne peut pas faire autrement. Parce qu'il cesserait d'être bon, il ne peut pas. Je vous donne un autre attribut, la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, ça veut dire que Dieu ne peut pas ne pas garder sa parole. S'il ne peut pas ne pas garder sa parole, et puis je sais ce qu'il a, il a écrit, on n'a rien à craindre. Vous savez, c'est ça. Le plan de Dieu, c'est ça la parole de Dieu. Allez chercher quelque chose d'équivalent dans une autre religion, vous n'allez rien trouver. Même des religions qui ont pour symbole la croix. Il n'y a que l'évangile de Dieu. Et l'apôtre Paul, dans cet épître aux Romains, nous présente l'évangile de Dieu. Il dit, voilà, ça c'est ce que Dieu fait. Ça ressemble à Dieu. C'est comme ça que Dieu travaille. Alors, Paul dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il nous donne la définition des bénéficiaires. Qui peut bénéficier de cela? Il dit, c'est ceux qui aiment Dieu. Il dit aussi, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein sont les mêmes. C'est les mêmes personnes. Ceux qui aiment Dieu, il est en train de parler de la part de l'homme. Ceux qui sont appelés selon son dessein, c'est une part de la part de Dieu. Donc il y a la part de l'homme qui aime, il y a la part de Dieu qui agit et qui réalise son plan et qui appelle. Mais vous savez, si vous lisez la Bible, vous allez voir que il nous parle énormément de la part de l'homme, ce que l'homme doit faire, et c'est en passant qu'il dit comment lui il fait les choses, comment il appelle, comment il intervient. On verra ça un peu dimanche prochain, Dieu voulant, dans la suite du chapitre. Mais il parle énormément de aimer Dieu, parce que c'est en fait dans le tout, dans tout ce programme, c'est nous les points faibles, c'est nous l'élément faible. Et c'est nous qui avons besoin d'être encouragés, dirigés, stimulés, rassurés. Et donc, la Bible décrit en détail ce que Dieu attend de l'homme. Et c'est ainsi que ça doit être dans ma vie personnelle, hein, que je parle énormément de ce que je vois, j'ai à faire pour Dieu. Ça doit être comme ça dans l'Église aussi. Hein, c'est pas de nous entretenir sur ce que Dieu pourrait peut-être et comment il pourrait faire, c'est d'entretenir ce que moi je dois faire. Comme disaient deux petits jeunes qui rentraient de l'école le dimanche, l'un dit, mais qu'est-ce que tu penses de tout ça? De la Bible et tout ça, qu'est-ce que tu penses? Et puis alors il y a un des gamins qui dit, moi je sais pas, parce qu'il y a plein de choses que je comprends pas. Et ça me gêne. L'autre il dit, oh, c'est pas ce que je comprends pas qui me gêne, c'est ce que je comprends qui me gêne. Et c'est ça, occupons-nous de ce que nous pouvons comprendre. C'est déjà pas mal. Hein, si je fais déjà tout ce que j'ai compris de la Bible et j'applique fidèlement, eh bien, je serai parmi ceux qui sont des modèles dans la vie. Hein. Donc, nous allons nous concentrer ce matin sur cette part d'aimer Dieu, hein, cette part qui nous est réservée, celle d'aimer Dieu, parce que c'est pour ceux qui l'aiment. Aimer Dieu, c'est plus qu'avoir prié un jour, hein, d'avoir dit Seigneur, sauve-moi, je veux être sauvé, je veux aller au paradis. Si vous ne lui avez pas parlé depuis, vous n'avez rien fait pour lui depuis, hop, je ne sais pas, hein, il y a plein de monde, hein, moi je connais plein de monde qui ont dit à Dieu je veux aller au paradis. C'est vrai que ceux qui aiment Dieu sont des gens qui ont prié et qui ont demandé à Dieu de les pardonner. Mais il y a toute une vie derrière. Hein. Aimer Dieu, c'est un mode de vie. C'est pas seulement un événement dans le passé. Dieu donne des promesses à ceux qui l'aiment. Je vous lis le verset 1 Corinthiens 2, 9, 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il dit, c'est au-delà de ton imagination. Ce que tu pourrais demander de Dieu, c'est les bricoles. C'est comme un enfant de 3 ans qui demande à son père, il peut lui demander ce dont il a besoin pour la vie. Lui, il va demander des bonbons. Un yaourt aux fruits. Bah, il faut plus que ça, hein, pour la vie. Heureusement que le Père sait plus ce dont il a besoin que lui. Hein, si Dieu se contentait de ce qu'on demandait, il dit, mais donne-moi ce que je te demande et puis après laisse-moi tranquille. Et ben, c'est malheureux. Déjà, le soleil ne se lèverait pas. Il dit, Dieu a préparé des choses, mais c'est au-delà de ton imagination. Tu ne saurais même pas les demander. 1 Corinthiens 8, 3 dit, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Il y a un lien entre aimer Dieu et être connu de Dieu. Hein. Jésus a parlé de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais il dit, moi je ne connais pas. Hein. C'est pas parce qu'on dit Seigneur, Seigneur, c'est pas parce qu'on est présent dans une église, c'est pas parce qu'on connaît les cantiques, qu'on connaît Jean 3, 16 par cœur, c'est pas pour ça qu'on est sauvé. Hein. Il faut être connu de lui. Parce que s'il dit, moi, non, je ne te reçois pas, je ne te connais pas. Tu ne m'as jamais parlé. Tu as parlé de moi, je ne sais pas. Il lui dit, mais on a fait des miracles en ton nom. Je dis, je ne sais pas, hein, tu as fait en mon nom, mais moi, je ne suis pas au courant. Tu en tirais tout la gloire toi-même. Tu l'as fait pour ton propre succès. Beaucoup de choses se font au nom de Dieu qui Dieu n'a rien à faire avec. Hein? On nous jette à la figure les croisades, mais Dieu n'a jamais été derrière les croisades, hein? Même s'il y avait des croix partout. Dieu n'a jamais dit ça, il n'y a aucun verset biblique qui justifie ça. Hein? Dieu n'a jamais dit à ses enfants, prenez l'épée et imposez le christianisme partout. Ben, les autres font comme ça, mais nous, Jésus ne fait pas ça. Il dit, moi, je reçois ceux qui viennent. Beaucoup de choses sont faites au nom de Dieu, et même de nos jours, et beaucoup de choses sont faites au nom de Dieu, et Dieu dit, moi je ne suis pas là. Dans l'Apocalypse, il nous parle de cette église où Jésus est à la porte et il frappe. Il n'est pas dans l'église. Il dit, j'aimerais bien y être. Mais je ne suis pas là. Ils font leur truc, ils font leur programme sans moi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Il dit, c'est ça que je veux. Vous savez, l'amour se manifeste par un désir de communion. Quand on est amoureux de quelqu'un, on a envie d'être avec eux, on a envie de les parler. Ben, y a pas, l'être humain est comme ça, on a été créé à l'image de Dieu. C'est déjà vrai chez lui, et maintenant c'est vrai chez nous parce que nous avons créé à l'image de Dieu. Il dit, quand on aime quelqu'un, on veut être avec lui, on veut lui parler, on veut l'entendre. Quand j'ai commencé ma relation avec Rowena, elle habitait à 1000 km. Et c'est à l'époque où il y avait les téléphones, il fallait mettre des pièces, et puis ça tombait vite. Et puis, j'étais pas très riche à l'époque. Bon, je ne suis toujours pas, mais j'étais encore moins riche. Mais pour l'entendre, eh bien, j'ai mis des pièces. Bon, ce qui est terrible, c'est de les entendre tomber. Mais on veut entendre. Dis-moi quelque chose. Je veux te dire quelque chose. Puis en général, on n'a pas grand-chose à dire. Mais c'est le fait de parler. Hein, on veut créer la communion. Et aimer Dieu, c'est pareil aussi. David, il exprime de cette manière. Dans le psaume 42, les versets 2 et 3, il dit « Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Il était en fuite de Saül, il ne pouvait pas aller au temple. Il était dans les déserts, puis il voyait une biche qui est là. Il dit, ben c'est comme ça, Seigneur. Comme cette biche, hein, tu vois cette biche qui manque d'eau et qui aimerait en trouver, eh bien, moi, je suis comme ça. J'aimerais être avec toi. Est-ce que c'est vrai de nous? Ah oui, nous, on a tous plusieurs Bibles dans la maison, on a tous des chants, on a plus accès, on peut aller sur Internet, trouver des chants sur YouTube, on a tout là. Mais est-ce qu'on soupire après Dieu? Vous savez, l'amour sincère pour Dieu amène la personne à aimer ceux qui aiment Dieu et à haïr, donc à aimer ceux, C-E-U-X, et à haïr ceux, C-E, que Dieu est. Hein, on s'accorde. Hein, il y a un diapason, c'est la Bible, et on s'accorde pour pouvoir vibrer ensemble. Pour ceux qui concernent ceux qui sont appelés selon son dessein, eh bien, vous savez, le verset suivant, on reviendra dessus la semaine prochaine, mais le verset 30, il dit « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Je vais le dire en passant, puis après on reviendra dessus plus tard, mais remarquez que tous ces verbes sont au passé. Il dit « appeler, justifier, glorifier ». Tous sont au passé. Pourtant, on n'est pas encore été glorifié. Justifié, oui, en principe, légalement, pratiquement pas encore, on n'est pas encore des justes. On a été appelé, on est justifié parce que Dieu l'a dit, il l'a prononcé, mais pratiquement c'est pas encore vrai. Et puis glorifié, alors là on n'a rien encore. Mais lui, il dit tout son passé. Dieu est tellement sûr de son programme que pour lui, c'est comme si les choses étaient déjà faites. c'est déjà décidé, il dit, écoute, reste calme, c'est tout fait, c'est tout mis en place, Christ est mort sur la croix, moi je suis souverain, je suis capable de mettre tout ça. Il dit, écoute, repose-toi dans ces vérités, sache, connais-les, sache que c'est vrai, et puis maintenant, vis cette vie pour le Seigneur. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La question, c'est êtes-vous de ceux qui aiment Dieu, selon sa pensée? Et si votre rédemption, et si oui, ben votre rédemption est sûre. Et si c'est sûr, alors il faut vivre avec, dans l'assurance. Et vous savez, un enfant qui grandit dans un contexte où il y a la confiance, où il y a l'amour, où il y a sa sécurité, eh bien, il s'épanouit. L'être humain s'épanouit dans ce genre de contexte. Eh bien, l'enfant de Dieu aussi, il s'épanouit dans ce contexte. L'amour de Dieu, la confiance en Dieu, la sécurité en Dieu. Eh bien, il y a tout pour que notre épanouissement. Pourquoi est-ce que parfois on ne le voit pas? Quelque part, parce que l'amour exige que l'on le cherche sa présence et qu'on cherche à l'écouter et l'entendre et lui parler. Et peut-être que c'est le domaine qui a été un peu négligé, qui est occupé avec beaucoup d'autres choses. On a des plaisirs, on a des petits trucs, des dadas, des choses comme ça qui prennent notre temps, puis on n'a pas de temps pour Dieu. Et après, on s'étonne que il y a un petit dicton en anglais qui dit quand les cœurs s'éloignent, ils s'oublient. C'est pour ça que si vous voulez être marié, vous restez marié et restez ensemble. Et se regarder souvent, plutôt que de regarder ailleurs. Et si je veux marcher avec Dieu, eh ben, il faut se regarder souvent. Et beaucoup le regarder. Nous allons prier. Je vais me taire pendant un moment. Je vais vous laisser, peut-être que vous avez des choses que vous avez envie de dire à Dieu.